Bienvenue à tous. Donc, c'est la deuxième séance du GREP, le groupe de réflexion sur la recherche en éducation populaire, qui s'associe à l'initiative du GEFPA, le groupe d'études sur la formation de l'histoire de l'éducation populaire à l'occasion de publications et de thèses sur la question. Je passe directement la parole à Françoise Lavaux, la présidente du GEFA, qui va
animer
la
séance. Merci beaucoup en tout cas d'être si nombreux cet après-midi. Je vais pas faire du grand développement, mais quand même j'ai deux ou trois choses à vous dire avant de commencer. D'abord, parce qu'on en a aussi posé la question tout à l'heure, l'éducation populaire et le GEFA. Oui, l'histoire de l'éducation populaire, ça entre dans le champ d'intérêt du groupe d'études d'histoire de la formation des adultes. Et d'ailleurs, nous avions déjà fait une journée d'études sur ce thème en 2010, le 16 mars 2010, très exactement, au siège de peuple et culture, et c'était à l'époque sur le thème l'éducation populaire et la loi 71, espoir et désillusion. Espoir et désillusion. Cette journée avait été coordonnée par Noël Perrault, qui est présent, et puis par François Pétard, qui malheureusement nous a quittés depuis. Alors avant de commencer cette séance, je vais aussi rendre un autre hommage, un bref hommage, à Vincent Père, qui nous a quittés il y a 10 jours exactement. Vincent Père, sociologue, chercheur à Roucresson, à la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse. C'était un fondateur du GEFA et un pilier du GEFA. Il était notre trésorier depuis l'origine, jusqu'à il y a un an. Il était aussi responsable de la lettre ISFORA, que vous avez peut-être reçue dans vos boîtes, à un moment ou à un autre, et que vous allez pouvoir aussi télécharger depuis notre site internet. Quand même, dire deux ou trois mots de Vincent, le portrait qui a été dressé de lui à la cérémonie des obsèques, c'était samedi dernier, correspond tout à fait à ce que nous connaissions de lui, c'est-à-dire quelqu'un de très ouvert, toujours bienveillant, attentionné, tout en restant ferme sur ses positions et rigoureux dans son argumentation. Il prenait peu la parole, mais à chaque fois qu'il a pris la parole en conseil d'administration, c'était pour faire avancer le débat. Nous aurons sans doute l'occasion de lui rendre un hommage un peu plus intellectuel dans quelques temps, en y contribuant du moins, puisqu'il a aussi beaucoup travaillé à combattre une certaine idée de la justice des mineurs. Il voulait une justice des mineurs bienveillante et humaine, et il s'est battu avec beaucoup de ses collègues, dont Jacques Bourquin, qui est aussi membre du GEFA, contre l'enfermement des mineurs et contre l'exclusion sociale. Son dernier ouvrage, j'arrêterai là, mais son dernier ouvrage a été écrit avec François Pétard, justement, qui nous a quitté elle en septembre 2010, « Des éducateurs dans la rue, histoire de la prévention spécialisée à la découverte ». Voilà, pourquoi cette séance? Eh bien, l'idée, en effet, on est venu en octobre, à l'automne 2012, quand, par un effet un peu étonnant d'agglomération de publications, trois publications sortent, alors des publications d'ordre très différent, un ouvrage collectif, dirigé par Franck Lepage, ici présent, ou plutôt, c'est à nous dira-t-il, par le collectif Cassandre Champ, qui s'appelle « Dans l'éducation populaire, une économie populaire d'avenir ». Une thèse, celle de Frédéric Châtelier, thèse de sciences politiques, qui a pour titre « Éducation populaire, deux ou trois vies d'une formule ». Et puis, et là vous allez voir qu'il y a un changement dans le programme, il y avait aussi un article de Christophe Granger, « La petite lanterne du progrès, instituteur et éducation populaire en marge de Paris », et c'était paru dans la revue 20e siècle, revue d'histoire. Alors, ce dernier, malheureusement, ne sera pas parmi nous aujourd'hui, puisqu'il est appelé à un entretien d'embauche. Et quand on est dans une situation difficile de recherche d'emploi, évidemment, on n'hésite pas. Donc, il nous a prévenu tardivement, et grâce à une réaction spontanée, et avec bien sûr, Francis Segond qui nous a aidés dans cette démarche, eh bien, Laurent Bess a accepté de le remplacer au pied levé, et donc nous le remercions évidemment chaleureusement. Au-delà de l'éducation populaire, l'objectif de cette journée est bien d'interroger le statut de toute histoire en lien avec le statut des auteurs qui l'a produit. Et on va s'interroger sur les postures. Sur les postures, alors acteurs, actrices, engagés dans l'action, historiens, historiennes, engagés dans l'histoire. Est-ce que ça se croise? Est-ce que ça se cumule? Est-ce que c'est compatible? Cette journée, donc, sera aussi l'occasion de mieux percevoir, de faire le point sur différentes questions, les motivations envers l'histoire, la place et la forme de l'archive, etc. On va aussi s'interroger sur les frontières très mouvantes entre histoire et mémoire, un sujet que nous avons souvent l'occasion d'esquisser au GEFA dans nos discussions. C'est une question sensible pour ce qui touche à l'éducation populaire, puisqu'il y a eu peut-être eu pendant beaucoup d'années un certain roman des origines, une histoire un peu mythologique, et qui a été remise en question par différentes publications. Quels sont les enjeux aujourd'hui de cette remise en question? Est-ce que c'est encore d'actualité? Bon, voilà, un petit peu des questions qui tournent autour de ça. Alors pour y réfléchir, on a prévu un développement qui n'est pas la méthode habituelle des communications les unes après les autres, mais un déroulement qu'on veut, je l'espère, un peu plus interactif avec des certaines questions auxquelles les trois invités vont essayer de répondre. Et donc, il y aura aussi, je vous dis tout de suite, des moments où vous pourrez échanger, donc au milieu, avant la pause, on fera aussi une pause, et puis on reprendra une série de questions ensuite. Voilà, donc juste pour deux mots pour me présenter quand même vite fait, parce que moi aussi j'ai des motivations à réfléchir évidemment sur l'histoire de l'éducation populaire, donc je suis professeur à l'Université de Reims de Champagne-Ardenne, et ma spécialité c'est la socio-histoire de la formation des adultes, et je ne me considère pas comme une spécialiste de l'histoire de l'éducation populaire, même si, évidemment, dans mon parcours, il y a quelques points d'attache avec ce milieu-là, puisque j'ai commencé ma vie professionnelle comme animatrice et responsable de l'équipement socio-culturel. Et dans ma formation, j'ai été plongée dans cette histoire mythique de l'éducation populaire à travers évidemment l'ouvrage de Benigno Cáceres, qui m'avait transportée à l'époque et m'avait donné une grande fierté d'appartenir à cette grande famille séculaire, l'éducation populaire. Voilà, donc deux séries de questions. La première qui permettra à chaque intervenant de s'inscrire dans une histoire et dans un milieu de l'éducation populaire, et puis de décrire rapidement les travaux menés. Et puis la deuxième série plus tard, ce sera plus centré sur les démarches de recherche qui ont été mises en œuvre, ou les démarches d'écriture de l'histoire, avec des questionnements autour du récit historique. Voilà, donc première série de questions. Eh bien, pouvez-vous vous présenter, chacun, les uns après les autres, bien entendu en essayant de donner des indices de votre inscription dans cette histoire. Alors, qui commence? On n'a pas prévu de déroulement, mais... Laurent, on va lui faire l'honneur, si tu fais la gentillesse d'accepter un pied levé.
Alors, moi, je n'ai pas d'expérience de l'éducation populaire qui est avant de m'intéresser à son histoire, au sens où je dis à mes étudiants, je suis maître de conférence d'histoire dans un IUT carrière sociale où on forme des animateurs, mais j'ai jamais fait d'animation, je ne suis pas bon de l'AFPA, je n'ai même jamais fait de colonie de vacances, ni même centre aéré, enfin bref, voilà, c'est un univers qui m'est radicalement étranger. Et donc je suis tombé dedans, alors par hasard, sans doute pas, si, mais disons d'un point de vue subjectif, oui, au sens où, fondamentalement, voilà, j'avais une carrière d'enseignant du second degré, j'ai passé l'agrégation, puis le hasard a fait que j'ai suivi ma femme à l'étranger, donc pendant un certain nombre d'années, et donc la trentaine arrivant, j'avais envie un peu de reprendre un travail de recherche. Et ce qui m'intéressait, c'était la question de la jeunesse dans la France des années 60. Fondamentalement, peut-être dans une perspective éducative, mais enfin, fondamentalement, alors à l'époque, je mettais ça sur mai 68 au sens large. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur le rapport UNICEF de 1967, donc qui est la première enquête d'État sur la jeunesse en France. Et grâce à un conservateur qui était à l'époque en charge des archives du ministère Jeunesse et Sport, j'ai trouvé dans les archives de Georges Pompidou à Matignon, où il était Premier ministre, un dossier extrêmement riche sur ce rapport UNICEF. M'a prouvé, j'en ai fait l'objet de mon DEA, donc c'est une vaste opération de communication, on savait à peu près, mais disons que c'est intéressant d'avoir les preuves grâce aux archives, au sens où, par exemple, le sommaire du livre blanc avait été rédigé avant même que les questionnaires soient envoyés aux jeunes qui étaient censés remplir les questionnaires pour servir de base à l'enquête, et le sommaire ayant été rédigé par René Haddy, qui à l'époque était le pas encore le ministre ayant donné son nom au collège version 1975, mais qui était le directeur de cabinet de François Misson. Et en travaillant un petit peu, j'ai eu dans un premier temps l'espoir de pouvoir utiliser les questionnaires remis dans le cadre de l'enquête Misson, mais bon, je me suis rendu compte que les sources étaient à la fois biaisées, relativement pauvre et qu'il n'était pas simple d'en faire une étude, disons, pertinente. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est que dans les archives de Georges Pompidou, en partie de son conseiller en charge des questions de jeunesse, plus du tiers des archives étaient consacrées au MJC. Alors je ne connaissais absolument pas les MJC, je suis originaire en plus d'une région où il n'y en a pas du tout. Ça m'a un petit peu surpris, et puis j'avais un peu envie d'en savoir un peu plus, sachant que. Georges Pompidou s'intéressait quand même suffisamment à la question pour faire établir ce qu'on appelle des notes blanches, c'est-à-dire des notes des renseignements généraux sur un certain nombre de hauts responsables de la FFMJC. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avant mai 68, hein, c'est en 1967-1968. Bon. Et puis en parlant, on m'a dirigé vers François Stétard, qui m'a conduit un beau jour aux archives, à la FFMJC, qui m'a montré la salle des archives qu'elle découvrait avec moi. Et c'est très du point de vue de la méthode historique, c'est une horreur ce que je suis en train de dire, mais fondamentalement c'est la découverte d'un gisement d'archives qui m'a conduit à un sujet et pas l'inverse. Bon, cela dit, c'est assez classique, hein, puisque la fameuse question à laquelle on est censé pouvoir répondre grâce à la quête des archives, en l'occurrence c'est d'abord la découverte d'un gisement d'archives qui a induit un sujet, puis ensuite éventuellement des questions. Et fondamentalement, donc, ce qui m'a intéressé à travers l'histoire des MJC, dans un premier temps, c'est d'abord l'histoire d'une politique de la jeunesse. Et je pense que les MJC, rempli cette fonction, volontairement ou involontairement, ça c'est quelque chose peut-être qui fait l'objet de discussion, mais en tout cas, entre 1960 et 1968-69, c'est fondamentalement sur cette perspective d'une politique de loisirs, et certes de culture, mais fondamentalement en direction de la jeunesse, qu'elles se sont développées. Et disons qu'en me penchant sur ce riche gisement d'archives, je suis progressivement entré dans cet univers de l'éducation populaire. Il me semble que c'était d'autant plus important que s'il y a bien un lieu où la référence à l'éducation populaire s'est maintenue coûte que coûte, ce sont dans les MJC. C'est-à-dire que même à l'époque, début des années 70 jusqu'aux années 80, où le terme éducation populaire est plutôt en déshérence, les MJC, et en particulier leur directeur permanent, continuent à tenir ce discours de l'éducation populaire. Les pratiques, c'est peut-être autre chose, mais je parle bien là de discours. Et aujourd'hui encore, pas mal des gens qui sont actifs dans l'univers de l'éducation populaire sont passés quand même par ce milieu MJC. Il y en a à ma droite, mais il y en a d'autres. Bon. Donc, je pense que c'est important. Alors, dans un premier temps, je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal à entrer dans cette logique de l'éducation populaire. Bon, fondamentalement, ça tenait à ma formation de prof, d'autant plus que, prof de second degré, je suis fils d'enseignant, frère, époux d'enseignant, enfin, c'est un peu la caricature. Et disons que la dimension, alors que j'ai longtemps pris pour anti-intellectuel, mais qui est donc, parfois anti-scolaire de l'éducation populaire, c'est vrai que ça, à plusieurs reprises, ça me hérissait le poil. Ça me hérisse encore parfois, hier, après-midi, exactement, avec des étudiants, travail sur réflexion sur animation et école. Bon, c'est vrai qu'il a fallu que je me gendarme pour ne pas sortir quelquefois de mes gonds, mais bon, voilà. Donc, je me suis intéressé à cette histoire qui, au départ, je sentais bien que c'était assez proche de mon univers, mais en même temps, quand même, assez exotique. Et il se trouve qu'au moment où j'ai vraiment commencé la thèse, que j'ai décidé de consacrer à l'histoire des UIC entre 1959 et 81, le hasard a fait que, revenant de l'étranger, j'ai été affecté dans un lycée un petit peu particulier, qui était un lycée technologique, et j'avais un complément de service à effectuer dans un lycée professionnel, donc j'ai découvert un univers assez différent de celui que je connaissais jusqu'alors. J'ai découvert, c'est pas forcément glorieux, mais disons la trentaine bien entamée déjà, que mes élèves n'étaient pas tous forcément de futurs profs d'histoire. C'était un petit peu quand même l'axe sur quoi je fonctionnais jusqu'à présent. Donc il y a eu aussi, je pense, si on est vraiment là dans l'histoire d'une dimension personnelle, puisque c'est le sens de la question, voilà, j'ai fait aussi ce travail dans ces conditions-là. Sachant que bon, ce qui m'a beaucoup marqué ensuite, ça a été la rencontre avec les archives, mais aussi avec les responsables présents et surtout passés des MJC qui m'ont un petit peu nourri, à la fois certes des mythes, mais aussi parfois des pratiques de l'éducation populaire. Et voilà, il se trouve ensuite que, à partir de 2008, donc j'ai eu un poste après avoir été 2 ans à l'UFM à Bordeaux, donc à l'UT Tours, où je forme des animateurs et où j'enseigne donc l'histoire de l'éducation populaire. Voilà. Pour un petit peu boucler la boucle par rapport à l'éducation populaire.
Merci beaucoup. Alors, je leur demande un exercice très difficile de tenir les temps. C'est parfaitement respecté. C'est 10 minutes, normalement, chacun. Donc là, je vais donner la parole à Frédéric Châtaignier, donc docteur en sciences politiques et actuellement chargé de mission histoire à la Ligue de l'enseignement.
Merci. Alors, comme Laurent, j'ai très peu de rapport en tant que militant avec l'éducation populaire, même si, moi, dans mon sens, j'en ai peut-être un peu plus d'activité de ce côté-là, naturellement sans connaître du tout cette catégorie. J'ai été scout, j'ai été théâtre amateur dans le cadre du MJC, donc j'ignore absolument tout par ailleurs, enfin, comme tout le monde, quoi. Comme Laurent, je pense que j'ai eu un parcours scolaire très rectiligne, hein, puisque j'ai fait une classe prépa, école normale supérieure, en philosophie. Et c'est à partir de ce moment-là et je pense que le fait de travailler sur l'éducation populaire s'est inscrit dans un processus qui a commencé à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai commencé à déchanter sur ce que pouvait apporter intellectuellement, socialement, psychologiquement, cette forme de consécration scolaire prend des formes extrêmement conservatrices, hein, dans le fond. Donc ça m'a mené, je faisais la philosophie, ça m'a mené à faire dans une forme de philosophie décalée par rapport, à l'époque du moins, par rapport au visage français, donc philosophie analytique. Puis j'ai carrément basculé dans la sociologie après un échec à l'agrégation philosophique. Ça a toujours des effets déterminants dans l'histoire de la sociologie. Non mais c'est vrai, sur du nombre de postes à l'agrégation de philosophie, il y a des départs plus ou moins forcés, plus ou moins assumés vers d'autres disciplines. Ça a une certaine importance historiquement, enfin, pour moi en tout cas. J'ai basculé dans la sociologie des pratiques de manière assez classique finalement, en croyant suivre un peu à 30 ans de distance le chemin de Bourdieu pour ce qui est de la distinction, voilà, donc sociologie des pratiques culturelles. Alors en essayant de m'orienter vers les pratiques culturelles amateurs, plutôt que vers des objets plus nobles en termes de politique culturelle. En l'occurrence, j'ai fait un travail en DEA sur les ateliers d'écriture. Et en quelque sorte, le fait de travailler sur l'éducation populaire ensuite, même si j'en viendrai à prolonger cette trajectoire de fuite le plus loin possible d'une certaine légitimité à la fois scolaire et artistique, également d'une certaine culture, domination malgré tout de la culture artistique, puisque j'ai cherché un sujet de thèse qui englobait pas exclusivement des activités artistique, c'est-à-dire que c'était ayant une légitimité artistique même sous la forme amateur, mais j'ai cherché une forme d'extension de ça, ce qui m'a amené, mais d'une manière sur laquelle je reviendrai pour les autres questions, à travailler sur l'ensemble de la catégorie éducation populaire, plutôt la manière dont des choses sont cataloguées ou pas à certains moments éducation populaire. Alors dans le cadre de cette trajectoire disciplinaire et thématique, il y a la question de l'histoire, et pas que la question de l'éducation populaire, il y a la question de l'histoire aussi qui s'est posée pour moi, puisque je n'étais pas historien de formation, j'avais même eu un rapport assez peu engageant avec l'histoire telle que je l'ai apprise, essentiellement en classe prépa, sous la forme d'une histoire politique surtout, un petit peu culturelle, mais toujours très légitimiste dans ses objets, centré sur des objets assez canoniques. C'est normal d'ailleurs, puisque c'est un cadre relativement conservateur dans ces, qui fonctionne avec un certain délai, un certain retard par rapport à ce qui peut se faire en recherche et peut-être même en enseignement universitaire. Donc j'avais un rapport assez distant avec l'histoire, mais je me suis retrouvé, je l'expliquerai après pourquoi, je me suis retrouvé à en faire quand même, mais sans être historien. À la différence de Laurent, moi je me qualifierais comme Françoise de socio-historien, qui renvoie à la fois à un certain nombre de réflexions sur l'hybridation de la sociologie, des sciences sociales en général et de l'histoire, hybridation autant que possible sur un pied d'égalité, ce qui est souvent difficile à faire admettre aux historiens. Mais c'est aussi un peu plus, de manière un peu plus courante, un peu plus banale, une manière de dire qu'on fait de l'histoire et qu'on assume d'en faire sans être inscrit dans la discipline histoire, sans être inscrit dans la section du Conseil national des universités histoire. Donc en l'occurrence, moi, il s'agit de la science politique et dans le fait de légitimer ce choix, une certaine influence de la principale revue étiquetée socio-histoire qui est la revue Genèse, qui était fabriquée essentiellement autour du DEA et du laboratoire de sciences sociales de l'École normale supérieure où j'ai appris les sciences sociales. Et ce rapport à l'histoire donc de l'extérieur a des gros désavantages, engendre des gros défauts. Et d'ailleurs, dans mon jury de thèse, il y avait une majorité de gens qui ont fait des études à caractère historique, y compris Françoise ici présente, mais il n'y avait pas d'historien à proprement parler. Et je pense qu'un historien, sauf peut-être certains particulièrement ouverts, possiblement, mais un historien de métier aurait eu beaucoup à redire sur mon travail du point de vue des habitudes souvent légitimes de la discipline historique. En termes de découpage de l'objet, puisqu'il s'agit d'une thèse portant quand même sur plus de 2 siècles, ce qui semble difficile à faire avaler pour une thèse d'un point de vue historien, en termes de rapport aux archives, de manière de constituer le corpus étudié, bref, il y a des fortes limites de ce point de vue-là, mais d'un autre côté, tout défaut a ses avantages réciproques, ça m'a permis aussi de poser des questions, donc cette question de l'usage de l'expression éducation populaire dans l'ensemble des discours publics depuis son apparition même, depuis essentiellement la Révolution française, ça m'a permis de poser cette question qui m'a semblé pertinente et que sans doute un historien de métier n'aurait pas eu les possibilités, même les possibilités en termes de... en termes institutionnels, en termes de stratégie à peu près raisonnable, en termes de carrière, possibilité de déboucher, donc on n'aurait pas eu la possibilité de faire. Je crois que j'ai tout dit.
D'accord. Donc là maintenant, je passe directement la parole à François Lepage, qui est intellectuel gesticulant, ancien responsable du secteur culturel de la fédération de la BNJC, de FNJC, et acteur actuel, créateur d'une coopérative d'éducation populaire en région Bretagne.
Oui, région Bretagne.
Il y a 2 saisons, il y a l'hiver et le 15 août. Donc moi j'ai mon BAFA. Et j'ai aussi mon BAFD. Donc des colos, j'ai envie de me diriger. Plus sérieusement, je me suis retrouvé assez rapidement du côté des pratiques éducatives anti-autoritaires, à la fois dans mon expérience personnelle d'instituteur en classe de transition, adoptant sans trop le savoir les méthodes frénétiques, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et puis surtout, je suis entré à l'université de Paris-Vite Vincennes, à l'époque de Vincennes, et où j'ai passé un premier diplôme d'animation socio-culturelle, dans lequel on m'a remis une plaquette à l'entrée, une plaquette de présentation du département, où il était écrit qu'à l'université libre et ouverte aux travailleurs de Paris de Vincennes, les études d'animation socioculturelle sont orientées vers la remise en cause de toutes les institutions du capitalisme. Voilà, donc pendant 3 ans, ça me convenait très bien comme programme. Donc, pendant 3 ans, j'ai appris à remettre en cause les institutions du capitalisme, à savoir la famille, l'école, l'entreprise, la religion, enfin voilà, plein de belles choses. J'ai enchaîné sur un débat de théâtre où j'ai appris essentiellement à être sur une scène sans auteur, sans metteur en scène, sans décor et sans vêtements. Ça m'a donné une solide armature pour parler en public, j'imagine. Bref, et puis je me suis retrouvé, je vous passe des étapes, des expériences d'animation dans des foyers de jeunes travailleurs, des choses comme ça. Enfin, j'ai un parcours un peu classique, hein, dans le travailleur social, versé du côté de l'animation. Je me suis retrouvé effectivement à la FFMJC, mais au sommet, c'est-à-dire au centre fédéral, ce qui ne peut pas arriver. En fait. Vous savez, ce sont des institutions pyramidales, vous avez des cursus, c'est-à-dire vous commencez en général comme directeur dans le Nord, à Tourcoing, quartier des Orions, et vous finissez à Cannes, dans la MJC qui est Picot, au bord de la mer, ou au centre fédéral. Alors je ne peux pas vous expliquer, ça serait trop long, mais je me suis retrouvé directement au centre fédéral, chargé de la culture. C'est là que je voulais en venir, c'est que j'ai commencé par aller au ministère de la Culture, en disant bonjour, je suis chargé de la culture à la maison de la paix de la culture. Je viens avec mes 1700 MJC sous le bras, donc je viens chercher des lessiveuses de subventions. Et je me suis fait jeter, vraiment jeter. Enfin, on m'a regardé comme quelque chose d'assez malpropre. On m'a expliqué que j'avais rien à faire dans ce ministère, que ici c'est ça la culture. Donc je dis oui, mais nous c'est le ministère de la culture. On m'a dit non, vous c'est de la socioculture. Enfin, 75 tables de séminaires et ces choses. Non, c'est de la socioculture, allez voir votre ministère de tutelle, jeunesse et sport. Je venais d'arriver. Donc je suis allé à jeunesse et sport et je vous jure que c'est vrai. J'ai demandé à rencontrer la personne qui s'occupait de la culture à jeunesse et sport. Et on m'a dit, il n'y a pas ici, c'est jeunesse et sport. Donc je suis rentré un peu déconfit dans la fédération et des collègues directeurs de MJC aguerris m'ont pris sous leur aile. Et m'ont dit, Franck, c'est parce qu'il faut que tu leur expliques qu'ici, en fait, l'éducation populaire. Moi, je découvrais le terme. Je n'étais pas du tout familier de ce terme à Vincennes. C'est-à-dire, on fait de la culture dans une logique d'éducation populaire. Je lui ai dit, comme expliquez-moi. Mais tu vois, il y a de la danse, par exemple, on lève la jambe, on la repose, mais c'est de l'éducation populaire. Je ne comprends pas. C'est différent. Vraiment. Et puis, je me suis rendu compte très rapidement que tous ces gens-là se référaient à une notion qu'ils étaient virtuellement incapables de m'expliquer. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un seul qui m'a proposé une définition convaincante, à part de vagues références à une pratique collective, mais enfin dans un cours de danse classique. Ce qui fait que je me suis retrouvé sans trop m'en rendre compte au début. Je me suis retrouvé finalement à devoir redémoniser cette notion, mais dans une institution. Face à des ministères, etc. Et je me suis trouvé plutôt à organiser des colloques et des choses comme ça. Et voilà. Je suis tombé en 91 sur une distinction éclairante entre une opposition entre animation et éducation populaire. Et cette distinction m'a permis de recoller avec mon esprit anarcho-anti-autoritaire. En gros, à partir du texte d'un Belge qui s'appelle Luc Carton, qui disait en France, vous parlez d'éducation populaire, mais vous n'en avez pas. En Belgique, on en a. J'ai vérifié, c'est vrai. Mais vous n'en avez plus. C'est musulman, c'est fini. Enfin, ouais. Sauf à mettre n'importe quoi sous ce terme. Et ce Belge proposait comme définition d'éducation populaire, en fait, l'action collective. Et évidemment, le yoga produisait peu d'action collective. On produisait en revanche de l'épanouissement individuel tout à fait légitime, mais. Et j'ai travaillé pendant 6 ans cette distinction entre animation et éducation populaire, et là je me suis mis à peu près tout le monde à dos, puisque c'est un clivage entre ce qui est politique et ce qui ne l'est pas. Des gens disant l'éducation populaire n'est pas politique, d'autres disant si elle l'est, enfin bref. C'est allé assez loin cette petite histoire, puisqu'avec l'aide et la complicité des syndicats de jeunesse et sport, on s'est retrouvé à nommer une opération nationale qui s'est appelée un groupe de réflexion pour l'avenir des éducations populaires du temps de Marie-Georges Buffet. L'objectif, donc, on a 1560 groupes de réflexion en France sur ces questions. Et l'objectif, c'est de sortir un livre blanc. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils avaient commencé à l'écrire avant qu'on... et il sort que ce soit une pratique des livres blancs, en fait, de faire des sommaires avant le... Voilà, donc ça aussi, c'est une histoire amusante, j'ai pas le temps de vous la raconter. On s'est tous fait virer. Et puis, je me suis retrouvé en Bretagne. De fil en aiguille, on a décidé de faire l'éducation populaire comme on pensait que ça devait être fait. Et donc, on a créé notre propre outil de travail. On a pris une coopérative d'éducation populaire. Puis aujourd'hui, on a 4. Et on développe des pratiques qui nous paraissent relever, enfin, qui nous semblent relever de ce qu'on, enfin, voilà, de ce qui nous semble devoir être fait dans ce domaine.
Pour nous expliquer un peu, d'abord, comment s'est construit la forme, évidemment, le contenu, ce qu'on s'appelle, la démarche qui a été mise en œuvre, et puis sa spécificité en tant que contribution à l'histoire de l'éducation populaire, éventuellement sa place dans une historiographie de l'éducation populaire.
Je veux bien commencer, alors. Parce que...
Ah bon,
pour partir.
Oui, c'est mieux, non, c'est mieux.
D'accord.
Oui, parce qu'en fait, il y a une...
C'est encore 10 minutes.
C'est 10 minutes.
C'est 15.
Oh non, mais là, parce qu'il y a une ambiguïté terrible autour de cet ouvrage. Mais évidemment, là, je vais parler sans... Enfin, il eût été légitime que son auteur réel fût dans la salle pour le défendre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand en 2000... Quand en 2005, à la suite d'un pari, enfin d'une provocation, enfin d'un truc assez amusant, je me suis retrouvé à monter sur une scène de théâtre à Avignon pour raconter différentes petites choses, et notamment le rattachement manqué de l'éducation populaire à la culture. Il se trouve que Cassandre a complètement craqué pour ça. Alors Cassandre, est-ce que vous voyez ce que c'est une revue de théâtre, essentiellement d'art qui cherche. Alors là, vous devez prendre tout ce que j'ai avec des pincettes.
Hein. Oui,
c'est mon regard sur Cassandre. En fait, il cherche à repérer les artistes qui sont vraiment artistiques. Il se positionne dans un esprit un peu de décalage par rapport au ministère. D'accord.
Et
aux grosses institutions. À mon avis, ils font exactement le même jeu, c'est-à-dire repérer les vrais artistes. Idéologiquement, on nous pose un problème considérable, mais grosso modo, bon. Et donc, ils ont craqué sur ce que je racontais sur l'éducation populaire en se disant, tiens, il semblerait qu'il y ait là l'annonce d'un renouvellement possible de la question artistique et culturelle, et Nicolas Roméas, pour ne pas le nommer, m'est tombé dessus en disant, on fait un numéro spécial sur l'éducation populaire à la rentrée. On était au mois d'août et il me dit on sort en septembre. Et moi je lui dis ben non, enfin, on n'aura pas le temps. Il me dit mais si, c'est absolument essentiel, faut le faire maintenant. Je lui dis non, mais enfin, tu connais pas la question, tu vas écrire n'importe quoi. Non, on y va. Et en fait j'ai fait ce que j'analyse maintenant comme une erreur, mais j'en sais rien. Comme j'avais peur, comme je pensais qu'il connaissait absolument pas cette question-là, et que j'avais par ailleurs 17 entretiens enregistrés des premiers instructeurs dramatiques, enfin des premiers instructeurs d'éducation populaire de Christiane Ford, et que l'INJEP avait refusé de publier en disant ça n'intéressera personne de publier ces entretiens. Ils avaient publié le rapport que le syndicat m'avait commandé, mais ils n'avaient pas publié les entretiens. Donc j'étais là avec 17 entretiens enregistrés au magnétophone de grands témoins. Enfin, voilà, Henri Corbeau, Gabriel Monet, des gens qui sont presque tous disparus aujourd'hui. Et je lui ai donné, je lui ai envoyé en lui disant, regarde là-dedans, lis là-dedans Et à ma surprise, semble-t-il, il a publié des extraits, y compris des extraits de personnes encore vivantes, d'ailleurs. Enfin, donc, c'est une pratique éditoriale particulière. Et ce numéro a été le numéro 63. Ils ont eu 3 ou 4 retirages. C'est-à-dire que c'est un numéro qui a marché du feu de Dieu. Alors, à leur immense surprise, des tas de gens se sont mis à acheter ce numéro sur l'éducation claire. Donc, ils découvraient, en fait, qu'il y avait un truc qui s'appelait l'éducation claire. Et des tas de gens ça intéressait. Donc, ils ont un peu accroché là-dessus. Ils ont récidivé, si tu veux, Nicolas a récidivé en sortant ça. Moi, j'ai absolument pas été associé à ça, à ce sommaire, je suis en train de le voir, c'est parti. Mais Nicolas dit que je lui fais un procès injuste. Parce que Nicolas dit que je lui ai donné carte blanche, et que je lui ai donné ça en disant fais-moi ce que tu veux. Et par ailleurs, donc on se retrouve, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, en même temps ça m'emmerde qu'on dise le livre de Franck Lepage, je ne peux comprendre pourquoi, parce que je l'aurais fait complètement différent. Enfin, si j'avais eu envie de faire un livre à partir des entretiens des grands témoins, c'est pas de voir cela que j'aurais mis, j'aurais pas parlé de la Monet, pour des tas de raisons, je trouve que voilà, j'aurais plutôt parlé de, enfin, d'autres, d'Henri Cordero ou d'autres, et donc voilà, donc il y a une ambiguïté. Alors reste que. Ce livre est un livre qui cite, et je pense que Nicolas a fait un travail qui est pas mal, qui est un travail muséographique, enfin je ne sais pas comment dire, de patrimoine, en republiant des extraits qui me paraissaient intéressants, mais dans la logique qu'il continue de défendre, c'est-à-dire par rapport à la question artistique. Moi je trouve que le défaut de ce livre, c'est qu'il est tourné vers le passé. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que l'éducation populaire, qui est un concept polysémique, habitable à l'infini, a une pertinence politique aujourd'hui. Évidemment, présenter ça comme un truc qui était sympa dans les années 50, voilà. Mais du coup, ça a permis de republier des extraits de ces entretiens, ce qui était sympa.
Oui, alors on peut quand même dire que ce livre est construit à partir des entretiens, certes, qu'il y a une recherche aussi iconographique avec des images, bon, beaucoup tirées de Pop des Cultures d'ailleurs, je pense, très centré quand même, c'est vrai, sur le théâtre, hein, comme pratique, plus que d'autres, il y a d'autres stages d'organisation, mais c'est surtout le théâtre hein, qui est mis en avant, et surtout qu'il est construit à partir de cette thèse de la fracture hein, initiale ou inaugurale, je ne sais pas. Entre la culture et la socioculture, hein, donc en 59, au moment de la création du ministère de Malraux. Hein,
Françoise Tétard a raconté.
Que Françoise Tétard a remis en question. Sur la réception de mots, peut-être
La réception du livre.
Du livre, oui.
Il est très bien reçu, enfin, il est dans les gares, il est dans les points de presse des gares, enfin, je ne sais pas quoi vous dire, enfin, mais là encore, en fait, la journée d'aujourd'hui va être intéressante. Moi j'attends d'aujourd'hui une confrontation, enfin en gros je suis l'imposteur de l'État, disons les choses simplement, mais je suis prêt à m'en expliquer de façon passionnante. Je fais partie de comment je dirais, moi et quelques autres, nous sommes lancés dans une repolitisation, une réactualisation du concept d'éducation populaire. Et ça prend, je me retrouve aujourd'hui à faire des conférences sur l'éducation populaire qui durent 4 heures, où j'ai des salles de 400 jeunes qui sont complètement toqués du concept, qui trouvent là une façon de rebondir, de sortir de l'échec de tous les militantismes des années 80, etc. Donc voilà. Donc si vous voulez, le fait de voir un livre qui où mon nom apparaît en couverture, alors que quand vous lisez bien, c'est à partir des entretiens d'eux, etc., fait que les directeurs l'ont acheté. Mais moi, j'étais assez inquiet de ça, parce que les gens l'achetaient en pensant que c'était la prolongation du travail qu'on fait. Or, c'est plutôt.
C'est comme ça, je l'avais compris, parce que c'est pas du tout grand cette
histoire. C'est plutôt un retour vers l'arrière, et en plus sur un versant qui est celui que j'attaque, qui est de ratatiner l'éducation populaire sur la question artistique, ce qui me paraît une erreur. Donc, tu vois, ça fait beaucoup d'ambiguïté pour un seul bouquin, quoi. Mais il se vend très bien.
Bon, on va revenir plus tard.
Oui, non, mais c'est parce que tu m'as demandé.
Oui, tout à fait.
Dans la consigne, c'était quel est le statut de l'ouvrage.
Absolument. Parfait. Tu parles de la
question. Tu vas peut-être dire deux mots aussi de la, enfin, de la publication du texte de ton spectacle. De ta conférence, est-ce que là ça a été suffisamment diffusé? Important, c'est que tu as cherché à ce que ça soit beaucoup diffusé?
Mais il faut vraiment que vous ayez en tête que je n'ai jamais eu l'intention de faire un spectacle, jamais. Il y a eu une expérience une fois avec un fêlé qui s'appelle Benedetto, qui est le Robespierre du théâtre français. Le créateur du Off à l'Avignon, enfin, qui est voilà, un personnage un peu particulier. Et je suis allé chez lui tenter une espèce de. Et les Belges sont venus me voir en disant ton truc, donne-nous le texte, on va le publier. Alors j'ai dit non, ça va être chiant, enfin, c'est impubliable, enfin, c'est-à-dire, ça va intéresser absolument personne. Donc écoute, on n'a rien compris à ton plan de tournage, à ton explication, donne-nous le texte. Et moi, je voulais, si vous voulez le texte, enregistrez la conf, prenez-le, et moi, je veux bien vous corriger, je l'ai fait. Et alors, ça se vend, mais vous ne pouvez pas imaginer. Enfin, je veux dire, alors eux, ça fait tourner leur édition, ce truc. Ils en sont, je ne sais plus combien de retirages, enfin, c'est insensé, ce truc. Il est lu, et il est lu par des gens qui sont pas du tout des Bac+12, c'est assez étonnant. Je me rappelle un jour, j'étais allé jouer à la conférence pour les civils, donc des agriculteurs du Finistère.
Tu pourrais expliquer ce que tu appelles jouer la conférence, parce que tout le monde était conférence. Oui.
Il y a un vidéoprojecteur, mais c'est un relié
interne. Je peux peut-être expliquer à ma place, en fait.
Pour faire une conférence gesticulée sur la
quand je me suis trouvé viré. Et littéralement interdit de séjour dans le milieu de l'éducation populaire institutionnelle. Je me suis retrouvé en Bretagne, aux ascédiques, à élever des poireaux. Je me suis demandé, vous connaissez l'expression, comment on va rebondir. Vous connaissez cette expression. Comme j'avais fait du théâtre longtemps avant, je me suis demandé si j'avais envie d'en refaire. Et la réponse était non, parce que j'aurais eu envie de faire un théâtre qui je retrouvais ce qui m'avait intéressé depuis 12 ans à FMJC, c'est-à-dire je travaillais avec le cabinet de Bernard de Toubon, le cabinet de Bernard Tapie sur la politique de la ville, je travaillais sur la mise en place des CEL, je travaillais sur tout un tas de politiques publiques, ceux qui ont toutes frappé les unes derrière les autres, enfin, tu vois, je veux dire sur les DSU, etc. Donc j'ai tout à le savoir et je trouvais que j'aurais envie de voir les textes de théâtre qui me parleraient de ça. Enfin, j'aurais appelé ça du théâtre politique. Le seul théâtre politique que je connaissais, c'est celui d'Edouard Borne, où des gens se violent mutuellement, souffrent d'anthropophagie, où il y a des, etc. Et donc, le fin du fin d'un théâtre politique, aujourd'hui, c'est de monter Antigone. Et donc, voilà. Et il y a eu un. Je sais pas comment raconter ça, si tu veux. Ce que je veux dire, c'est que. Benedetto m'avait dit un jour, tu devrais arrêter d'être sur une tribune de colloque, t'as rien à y foutre, t'es un conteur, monte sur une scène de théâtre. Ça y est, 80 ans. Donc je lui avais dit, fiche pas la tête, dégage. Et puis ensuite, quand j'ai été viré, que j'ai fait un dernier séminaire chez lui, qui était un séminaire avec un économiste qui s'appelle Alain Marchand. Alain Marchand, c'est lui qui explique que la vie associative est le fer de lance du capitalisme. C'est-à-dire la pointe avancée du capitalisme, c'est la vie associative. Je voulais faire un séminaire et j'ai cherché un endroit pour le faire. Je l'ai fait à Avignon chez Benedetto, mais à cause d'Avignon. Et puis parce que au mois de mai. Et donc je me suis retrouvé chez lui. Benedetto est venu manger avec nous poliment et je lui ai dit, tu te rappelles pas, mais il y a 10 ans de ça, tu m'as dit que je devais monter sur ça. Mais écoute, là je suis viré, je me colle un nez rouge, je raconte tout, je balance tout, mais tu me passes ton théâtre. Et lui il me dit, si tu le fais pas maintenant, tu le feras quand? Donc, je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma copine, ouais, il me fait chier, mais tout, ça continue, je vais le faire. Et elle m'a rajouté une couche, elle m'a dit, écoute, fais-le au fin de ta gueule. J'ai dit, vous me faites tout chier. Donc, j'ai écrit une lettre de 9 pages à la plume, à Benedetto, en lui disant, je veux tout dire. Je veux bien monter sur ton terrain, sur la scène, mais je veux tout dire. Tout. Je veux absolument tout dire. Je veux aller jusqu'au point où je sais plus ce que j'ai à raconter. Et donc, je sais pas combien de temps ça a duré, j'ai fait le calcul, ça devrait durer 72 heures. Donc, je lui ai dit, je te propose de prévenir les spectateurs. Tu feras la rouge, les coussins, enfin, tu vois, et puis moi je raconterai tout, je raconterai le ministère de la ville, ça comptait plein de choses. Et puis il m'a rappelé en disant 72 heures, putain, c'est culotté ton truc, tu peux pas essayer une heure pour voir. Et donc là, je lui ai dit, mais une heure, c'est un spectacle, t'as rien compris, j'ai rien à foutre de faire un spectacle, je dis que je raconte en une heure. Enfin, je veux dire, une heure, moi, quand tu me mets en formation, je pars 8 heures, enfin, tu vois, puis après, les gens viennent me dire, c'est dommage, le stagiaire, on va plus parler.
Ça va être le cas pour les deux autres.
C'est vrai qu'il faut vous arrêter.
En fait,
ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé ça, si tu veux, en une heure, mais en une heure, qu'est-ce que je raconte? J'ai raconté un tout petit truc qui m'intéressait, qui était effectivement la façon dont... Enfin, voilà, une sorte de Christian Faure, si tu veux, qui est un personnage secondaire. Là-dessus, je rejoins François Stéphane. François m'a dit, écoute, Franck Arras est en train de fabriquer un mythe avec un personnage secondaire. Bon, on a discuté de qu'est-ce que c'est qu'un personnage secondaire, etc. Et en fait, cette histoire a pris, et elle a pris aussi comme spectacle. Du coup, les gens n'arrêtaient pas de me demander de venir re-raconter cette histoire. J'y retournais, et puis ça ne s'est plus jamais arrêté. Je l'ai présentée 450 fois, et elle fait 4 heures.
Et alors peut-être qu'on pourrait dire que la chose dont j'ai ce couple, c'est qu'on peut là, on peut voir cette histoire de Christian Faure sur Internet. Hein, vous tapez Christian Faure et Franck Lepage, et vous tombez dessus, et vous faites une vidéo, et puis vous tombez dessus.
Mais sauf que c'est un spectacle ultra gauchiste qui pose tout un tas de questions. Regarde de l'exigence historique.
Critique de la langue de voix de l'éducation.
Alors, on va revenir tout à l'heure, hein, pour ceux qui ont pour questionner, etc. Bon, il faut quand même qu'on donne la parole aux invités. Donc, alors, Frédéric, peut-être tu peux revenir un peu à la forme, au contenu de...